Il a fait beaucoup de choses, ce monsieur Avis. Il a été professeur de français à l'étranger. Il a rédigé, entre autres, les guides bleus de la ville de Paris, des catalogues, des expositions. Et ce soir, il va nous parler de la voix de Villiers de l'Île d'Adam. C'est un écrivain qu'il connaît bien, qu'il aime bien. Il a collaboré à la préparation de l'exposition à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, endroit où il travaille.
Alors, comme vous avez entendu, je n'ai pas vraiment d'autorité pour vous parler de Villiers de l'Île d'Adam, ni de titre, sauf peut-être la chance d'avoir collaboré pendant quelques mois avec quelqu'un qui a toute l'autorité pour en parler, mais qui n'en parle pas, et qui en plus a eu la cruauté de venir m'écouter ce soir. Ce que je pensais pouvoir faire, c'était plutôt vous raconter, moi, mon expérience personnelle de lecteur de Villiers de l'Île d'Adam. Cela dit, je n'ai pas évident non plus que ce soit la voie la plus facile, car je sais bien qu'il y a autant de lectures que de lecteurs, et que je sais bien que ma propre façon de lire et ma propre jubilation dans les mots n'est pas forcément celle de tout le monde. Cela dit, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je n'ai pas pris Mallarmé, je n'ai pas pris Baudelaire, j'ai pris que Villiers de l'Île d'Adam, mais je crois que je vais devoir exorciser quand même Mallarmé pour commencer, comme ça, ça ira peut-être mieux après. Et si on a dit, si M. Seguin a pu dire l'autre fois que Villiers de l'Île d'Adam était un auteur difficile, opposé à Barbet, dont la lecture serait... à Barbet d'Aurevilly, dont la lecture serait facile, eh bien, après Mallarmé, Villiers vous paraîtra forcément simple, j'espère. Baudelaire, en parlant de Rouvière, un acteur qui fascinait Villiers, puisque Villiers avait appris à l'imiter, récitant Hamlet, et Villiers lui-même se revêtait de son manteau d'encre, comme dirait Mallarmé, pour réciter à Hamlet en imitant Rouvière. Baudelaire disait de Rouvière, « Voilà une vie agitée et tordue, comme ces arbres, le grenadier, par exemple. Noueux, perplexes dans leur croissance. » J'ai pas apporté le texte, hein, mais je crois que ça devrait aller. « Qui donne des fruits compliqués et savoureux, et dont les orgueilleuses et rouges floraisons ont l'air de raconter l'histoire d'une sève longtemps comprimée. » Quelque chose comme ça. Évidemment, il en vient à la littérature, et il dit il y a des gens par milliers qui, en littérature, adorent le style coulant. Il pense naturellement à George Sand, cette sainte personne qu'il n'aurait pu rencontrer sans lui flanquer un bénitier à la figure, comme il disait, le style coulant, l'art qui s'épanche à l'abandon et comme à l'étourdi, sans méthode, mais sans fureur et sans cascade. Et il le repose, les autres lecteurs, qui sont, dit-il, en général des littérateurs, ceux qui n'ont du plaisir à lire que ceux qui demandent à être relus. Les ouvrages médités, laborieux, tourmentés, qui contiennent la saveur de la volonté qui les enfanta. Dire que Villiers est un auteur compliqué, c'est entrer dans le vif du sujet en le présentant comme ça. Il est exactement de ces auteurs, il suffit de regarder ses manuscrits pour comprendre qu'il travaillait infiniment ses phrases, que ce qu'il avait découvert dans la jubilation des mots et qui va finir, selon Mallarmé, par devenir le seul monde qui l'intéresse. Bien, il l'avait, c'était pas dans le style coulant de George Sand qu'il avait découvert, mais bien dans les phrases travaillées. Alors on n'a qu'à attaquer Mallarmé tout de suite. L'image que Mallarmé en donne, et peut-être que justement on pourra ainsi exorciser cette image complexe que Mallarmé va donner, et retrouver un Villiers plus vivant que ce que Mallarmé semble dire, puisqu'il s'interroge en disant... sa vie, je cherche rien qui ressemble à ce terme, à proprement parler et au sens ordinaire, vécut-il. Donc, une fois qu'on débarrassait de Mallarmé, on aura peut-être l'impression que Villiers a vécu tout de même, et je vous raconterait un peu sa vie pour vous prouver qu'il a bien existé. Mallarmé commence sa conférence comme ça. Je devrais me lever. Un homme au rêve habitué vient ici parler d'un autre qui est mort. Alors là, il dit, le causeur s'assied. C'est pour ça que j'aurais dû être debout. Mesdames, messieurs, sait-on ce que c'est qu'écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse pratique dont gît le sens au mystère du cœur, qui l'accomplit intégralement, se retranche, autant par oui dire que rien n'existe et soit spécialement au reflet de la divinité éparse, ce jeu insensé d'écrire, s'arroger en vertu d'un doute, la goutte d'encre apparentée à la nuit sublime, le devoir de tout recréer avec des réminiscences pour avérer qu'on est bien là où l'on doit être, parce que, permettez-moi d'exprimer cette appréhension, demeure une incertitude. Et ça continue comme ça pendant 2h30. On comprend que le public ait crié au fou et soit sorti la première fois. Il n'empêche que la question que Mallarmé pose, c'est pas par hasard si c'est à propos de Villiers. Sait-on ce que c'est qu'écrire ? Et je sais, pense bien qu'on n'entend pas ce qu'il dit quand on parle comme ça. Et pourtant, il l'a proféré, cette conférence, 6 fois. Mais au moins, on retient cette idée qu'écrire serait une pratique et celui qui l'accomplit intégralement se retranche. C'est-à-dire se sépare, celui qui a choisi les mots se sépare intégralement et du temps et du monde et des autres et de lui-même, hein, et soi spécialement. Donc soi-même n'existerait pas. Et Mallarmé, quand il écrivait Hérodiade, Hérodiade qui était en quelque sorte un calque de la première œuvre de Villiers, enfin une des premières œuvres de Villiers, son premier roman philosophique, Isis, hein, on pourrait montrer que Isis est l'origine même, avec son personnage de Tullia Fabriana, retiré dans son château, son labyrinthe isolé du monde, à peine rattaché à la terre ou à peine rattaché à la vie, sauf par quelques promenades où elle va goûter quand même le spectacle de quelques souffrances pour se reconnecter un peu avec l'existence, parce qu'elle croit qu'elle a une mission, sans doute une action héroïque à accomplir, qu'on ne saura pas, puisqu'elle n'est pas dans le livre, à moins que ce soit simplement un putsch politique, qui est celui qui apparaît dans Morgane plus tard. En tout cas, dans Hérodiade, rien n'a lieu que le lieu, comme dirait Mallarmé. Et donc, rien n'a lieu que, en fait, que les mots. Et les mots seraient le seul monde, celui largement digne de remplacer la réalité du monde. Or ça, Mallarmé a pu le prendre dans l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam. On le voit perpétuellement remettre en cause la réalité, ne croire qu'à l'illusion du monde, démonter perpétuellement les certitudes des positivistes qui croient à la solidité de ce qu'ils voient, qui croient que ce qu'ils voient est ce qui est, alors qu'ils se servent de Hegel ou des occultistes ou d'un certain Baudelaire. Il démonte cette certitude, il dit ce qui est dehors, mais ça n'existe que dans votre perception, dans votre tête, et donc, qu'en savez-vous ? Peut-être que ce ne sont que les mots, et on ne croit pas que Villiers ait vraiment lu Hegel, il devait lire à peu près comme moi, c'est-à-dire qu'il prenait l'étape des matières et quelques têtes de chapitres, mais avec cela, il recomposait son Hegel et son Eliphas Lévi, qu'il a peut-être mieux lu, et l'un ou l'autre ne lui sert qu'à ça, à démontrer le pouvoir, la puissance des mots. Et donc sur ce point, Mallarmé aurait raison. Et quand il présente un Villiers entièrement dans le rêve et détaché de la vie, uniquement occupé de la beauté idéale, il se peut qu'il soit dans le vrai d'un certain Villiers de l'Isle-Adam. C'est sûr que le rêve l'a occupé, le pouvoir des mots, mais on pourrait regarder un texte tardif de Villiers, de ses dernières œuvres, dans La Maison du Bonheur, texte que naturellement Mallarmé cite souvent. On le voit, c'est à peu près des essaims, hein, renfermés dans sa bibliothèque. Il décrit La Maison du Bonheur comme cela. Naturellement, il cite Baudelaire en épigraphe. Hein, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Il dit « Oh, ce parfum d'ébène, de fleurs mortes et d'ambre faible, qu'exhale dès le vestibule la douce demeure. Ils se sont complus à l'embellir jusqu'à l'avoir rendu un véritable reflet de leurs rêves. Auprès des tentures qui en séparent les pièces, des marbres aux pures lignes blanches, des peintures de forêt et suspendues aux tapisseries anciennes des murailles, des pastels dont les visages sont pareils à des amies défuntes et inconnues. Sur les consoles, des cristaux aux tons de pierres précieuses, des verreries de Venise aussi aux couleurs éteintes. Ça et là, cloués en des étoffes d'Orient, luisent en éclairs livides, incrustés d'un très vieil or, des trophées d'armes surannées. Etc., etc. Et vous voyez que tous les signes de cette beauté sont des signes de la mort, hein. Tout y est vieux, suranné, mort, défunt. Donc ce rêve, le rêve que Villiers aurait voulu, serait, on pourrait croire que c'est cela, se détacher de l'existence qui si désagréable, des gens si épouvantables qu'il avait à rencontrer, pour s'enfermer dans un rêve comme cela. Mais en fait, c'est si on regarde bien ces deux personnages, Mademoiselle de Lucange et le duc de Villetéars, ce ne sont pas forcément Villiers quand il dit « Elle ni lui n'étaient en effet du nombre de ces esprits créateurs, trempés de manière à tenir tête, fût-ce au scandale de toute l'humanité, et dont le fulgurant souffle d'infini refoulerait les plus rugissantes rafales. Ce n'étaient que deux exquises intelligences, merveilleusement douées, que cette qualité d'épreuve fit fléchir comme deux fleurs sous la pluie. » Donc, il semble bien dire que c'est un fléchissement que de se reculer ainsi dans ce rêve-là, et que s'ils avaient été des esprits créateurs, trempés de manière à tenir tête, fût-ce au scandale de toute l'humanité, eh bien, ils ne se seraient pas retirés ainsi. Or, de qui parle-t-il quand il parle de cet esprit créateur, sinon de lui-même? Et ce qui veut dire que se retirer dans le rêve, pour lui, c'est aussi dans un moment de fléchissement par rapport à son vrai désir. Mallarmé, lui, quand il écrivait à Hérodiade, il acceptait de mourir dans son écriture. Il disait, on existe anonyme dans le héros. Heureusement, je suis parfaitement mort, je ne suis plus Stéphane que tu as connu. L'écriture existe à sa place, elle s'est retirée de tout. Il n'est pas sûr que Villiers, lui, ait accepté, avec un nom pareil, d'exister anonyme. Son nom, il y tenait plus que tout. Et il dit même que sa gloire, ce sera au moins l'impression de sublimité, il parle pas de lui, mais on sent bien qu'il en parle quand même, il parle de Milton, mais l'impression de sublimité qui reste de son nom, à défaut d'être lu, eh bien, il restera ça, et peut-être que c'est vrai qu'il n'y a que cela qui reste de lui pour beaucoup, mais au moins, il reste cela. Et il n'est pas sûr que lui, Villiers, il est considéré comme Mallarmé, que cette écriture se suffisait, que cette écriture comme un mécanisme qui extermine le monde, et qu'à chaque fois que Villiers va faire entrer une machine dans son œuvre, ce sera pour dénoncer justement sa froideur, la mort qu'elle contient, l'absence d'être, dirons-nous. Et il se peut que son rêve à lui, Villiers, il voulait qu'il prie dans la vie, qu'il ait lieu dans cette vie que Mallarmé semble lui dénier, lui refusant d'avoir existé. Quand dans La Révolte, par exemple, c'est une pièce qu'il écrit en 1868, mais qui sera jouée en 1870, on le voit rêver de gloire, il veut écrire pour tout le monde, il veut la vie. Il monte La Révolte et naturellement ce sera un échec complet. Il a écrit dans sa jeunesse deux pièces, Hélène et Morgane, d'un romantisme exacerbé qu'il n'a pas pu faire monter malgré ses efforts. Et donc il se dit, je vais, puisque le théâtre est bourgeois, je vais me mettre moi aussi au drame bourgeois, je vais utiliser le système à succès et je vais faire passer mon œuvre à travers ça, mon message, je vais donner l'air d'un drame bourgeois à une pièce, mais pour dire ce que j'ai envie de dire. Le mieux, c'est que ça va tromper Alexandre Dumas, fils, qui va se battre pour faire monter la pièce, qui est une dénonciation complète de tout le théâtre bourgeois et de celui d'Alexandre Dumas en particulier. Donc ça ne trompera pas le public, naturellement, ni les critiques, sauf bon, quelques-uns vont l'admirer, hein, Banville ou des Gautier, ou même Wagner au moins va admirer la lecture. Quand Villiers va la lire, ils vont lui reconnaître un talent fabuleux de lecteur, mais pas forcément reconnaître comme un génie. Alors il est donc furieux, il écrit une préface contre les critiques, et à la fin il termine ainsi: aujourd'hui le théâtre, aux règles posées par des hommes amusants et qui nous encombrent de sa morale d'arrière-boutique, de ses ficelles et de sa charpente, pour me servir des expressions de ses maîtres, tombe dans lui-même, dans ses propres ruines, et nous n'aurons malheureusement pas grand effort à déployer pour achever son paisible écroulement dans l'ignominie et l'oubli. Se trompait beaucoup. On y assiste, on rit, mais on le méprise. On dit de ce qu'il enfante, c'est un succès. Le mot « gloire » ne se prononce plus. Eh bien, et c'est pour cela que j'écris ces lignes, puissais-je garder cette illusion légitime de penser que la révolte, si restreinte que soient les proportions de ce drame, est la première tentative, le premier essai risqué sur la scène française pour briser ces soi-disant règles déshonorantes. C'est son seul mérite à mes yeux, et j'ai tenu à le constater, voilà tout. Et il termine: oui, la foule juge tardif, mais seul juge, car on ne doit écrire que pour le monde entier, s'apercevra brusquement du but que poursuivent les deux ou trois incapables qui la bafouent, la méprisent et la trompent. Ils nous disent, sûrs de l'avoir suffisamment hébété, le public ne vous comprendra pas, et ils se frottent les mains. Mais réveillés de leur soi-disant jugement, la foule haussera bientôt ses vastes épaules, et il leur deviendra plus difficile alors de paralyser matériellement toute tentative généreuse et haute de ceux-là seuls qui, de tout temps, furent les créateurs de l'art, et non ses valets. Ainsi, justice sera faite, et nous avons le temps d'attendre, etc. Alors, est-ce que Villiers ne se trompait pas? Il croyait que le théâtre bourgeois allait finir, et il se porte toujours aussi bien. Et il croyait que la foule allait lui rendre justice, et il ne semble pas, 120 ans après cette pièce, que la foule lui ait rendu justice. Et cette foi dans la justice de la foule, elle va lui passer avec le reste au fur et à mesure qu'il va avancer dans les échecs perpétuels de son existence, puisque ce sera bien pire avec ses autres pièces. Si on lit les textes comme ce que disait la Maison du Bonheur, on verra que son jugement pour la foule, eh bien, il l'a un peu perdu, et il s'en prend au progrès, comme d'habitude, aux machines qui ne sont que des jouets dont se paye l'âge mûr de l'humanité. Il y a quelque chose quand même qui lui demeure, c'est que dans ce progrès, au moins, on pourrait croire qu'il va apporter un peu de justice, car il a cru cela au temps de la révolte, hein, en 70. Il était dans la rue au moment de l'assassinat de Victor Noir, il voulait organiser une insurrection, il était communard quelque temps après. Hein, tout ce qui allait à l'encontre de la bourgeoisie établie le satisfaisait. Et là aussi, il va vivre de désillusions, que ce soit au niveau de la littérature, au niveau de l'action sociale. Voilà comment il va terminer. Socialement, toutefois, il leur était difficile en eux-mêmes, il s'agit toujours des deux rêveurs de tout à l'heure, de condamner à l'étourdi l'évidence de cet effort de tous vers la grande justice, vers une équité meilleure enfin que celle dont se lamente le passé. Mais les résultats très précis, obtenus en appliquant ces théories humanitaires, empruntées d'ailleurs à l'éternel christianisme, semblaient, jusqu'à présent, il fallait bien se l'avouer, singulièrement en désaccord avec les admirables intentions de leurs partisans. Comment ne pas reconnaître, en effet, que les plus libres, les plus fiers et les plus jaloux de la liberté parmi les peuples sont ceux-là même qui, les longs fouets ensanglantés au poing, supplicient le plus leurs esclaves, savent humilier le mieux leurs pauvres, et entre les forfaits à commettre ne préfèrent jamais que les plus vils. Alors là, il est dans Baudelaire, exactement, dans la préface aux traductions d'Edgar Poe. Baudelaire disait exactement, avec pratiquement les mêmes mots, condamner l'Amérique au nom de la démocratie, elle qui a ses esclaves au nom de la démocratie et qui les fouette. Et de ce dépit, voilà où il va venir, à une sorte d'aristocratie et d'élitisme. Comment éviter par tout pays le spectacle de ces triomphantes lupercales où les majorités, au patriotisme si lucratif, aux éloquences foraines exultent si gravement, et dont la sereine servilité, giratoire seulement aux uniques souffles de ces trahisons écœurantes philosophiquement situées au-dessous de toute pénalité comme de tout dédain, affirme, outre mesure, en quelle désespérante inanité s'aplatissent les révolutions. Il était assez à la mode, finalement. Et pour conclure, comment ne pas comprendre sans effort qu'étant donné la loi de l'innée disproportion des intelligences, en leur diversité d'aptitudes, le prétendu règne d'une justice purement humaine ne saurait être jamais que la tyrannie du médiocre, s'autorisant gaiement, de quoi, du nombre pour imposer l'abaissement à ceux dont le génie, constituant seul l'entité même de l'esprit humain, a seul de droit divin, qualité pour en déterminer et diriger les légitimes tendances. Vous voyez que de dépit en dépit, il est exactement à l'opposé de cet espoir qu'il mettait dans la foule au début. Alors que s'est-il passé entre nous ? Il a découvert, d'échec en échec, que la société n'était qu'une machine à détruire le génie. Et il va en démonter le mécanisme dans des textes comme les Contes cruels, comme les Deux augures ou la Machine à gloire. Il démonte point par point le mécanisme de cette machine. On se croirait à l'audimat de la télévision. Il y a une machine destinée à applaudir, qui va entraîner la foule à savoir ce qui est bien pour elle ou ce qui n'est pas bien. Et quand par hasard un poète se présentera, alors on rote la machine par un mécanisme à l'envers, se mettra à siffler, hurler pour que personne n'entende rien et donc ne puisse juger l'œuvre. Ou dans les Deux augures, on le voit se présenter devant un directeur de journal qui ressemble entre autres à Girardin pour lui proposer un texte en lui disant qu'il est vraiment d'une nullité absolue, la médiocrité même, et que donc il est parfait pour son journal. Et le directeur se méfie et dit comment nul, vraiment médiocre, ce qui répondrait à la devise du journal, soyons médiocres. Et il ne le croit pas, et à première lecture, immédiatement, il dit « Mais non, vous êtes plein de talent, hélas, vous avez essayé de me tromper, mais on sent la littérature cachée à tout instant, c'est pas possible, je ne peux pas vous publier. » Donc, entre-temps, il a désappris à croire à l'action, à la peuple, à la foule, un peu comme ça avait été le cas pour Baudelaire. A été le maître de Villiers, c'est lui qui a transformé complètement son esprit. Et lui aussi était dans la rue en 1848, hein, même si c'était avec un fusil. Peut-être pour aller tuer son beau-père seulement, mais sans doute aussi pour participer à un mouvement. Il était proche des socialistes, des réalistes même en art. Et il va s'en détacher peu à peu et pour porter à la fin de sa vie des jugements totalement déprimé sur la foule, lui aussi. Donc le destin de Villiers va être un peu le même, mais c'est, je ne crois pas pour ça que Mallarmé ait raison de dire que c'est, sa seule découverte aurait été que les mots pouvaient remplacer le tout de l'action et que l'action restreinte de l'écriture aurait été suffisante. Villiers, je disais, avait connu Baudelaire, et de Baudelaire, il a forcément retenu autre chose que ce que le jeune Mallarmé semble, lui, retenir au départ, quand ils écrivent tous deux, parce que Mallarmé et Villiers sont extrêmement proches, ils seront toute leur vie, ils semblent retenir de Baudelaire ce côté rêve, idéal, la beauté idéale, ce qu'on apprend de Baudelaire à l'école, « Je suis belle au mortel » ou « L'albatros ». Quand Villiers lui nomme des poèmes de Baudelaire, ce ne sont pas ceux-là qu'il nomme, il nomme à une passante ou des poèmes des tableaux parisiens de la deuxième édition qui sont comme une réponse point par point à cette poétique de la beauté idéale. On doit démonter tout le rêve par un réveil Par exemple, Mallarmé a même fait passer un poème, Le phénomène futur, qui ressemble étrangement aux œuvres de Villiers, à cette partie rêveuse de Villiers, à Baudelaire. C'est un Barnum des anciens âges qui montre aux gens des temps futurs une beauté artificiellement conservée. Alors les gens sont en admiration, ils disent l'humanité a pu être aussi belle que cela. Et Baudelaire dit, mais je dis que c'est une idée ingénieuse, mais je dis que cela n'est pas vrai. L'humanité s'admirerait, elle appellerait la beauté laideur. Or, dans Villiers de l'Isle-Adam, on retrouve exactement la même pensée, hein, quand il dit « Qu'apporte la foi réelle, le vain scandale de ces poignées d'ombre demain disparues, pour faire place à d'équivalents fantômes ?» Qu'importe qu'elles détiennent aujourd'hui, comme hier, comme demain, l'écorce matérielle d'un pouvoir dont l'essence leur est inaccessible. Nul ne peut posséder d'une chose que ce qu'il en éprouve. Si cette chose est belle, noble, enfin divine d'origine, et qu'il soit lui d'essence vile, c'est-à-dire d'une prudence d'instinct nécessairement abaissante, la beauté, la noblesse, la divinité de cette chose, s'évanouissant immédiatement au seul contact du violateur, il n'en possédera que son intentionnelle profanation. Bref, il n'y retrouvera, comme en toute chose, que la vilenie même de son être, que l'écœurante, éclairée et bestiale médiocrité de son être, rien de plus. Donc il semble dire, comme Baudelaire, l'humanité s'admirerait, elle appellerait la beauté laideur, mais en même temps, cela veut dire la beauté absolue, l'art pur n'existe pas. Et donc, c'était une voie erronée. Ça ne peut être qu'un refuge, mais ce ne peut pas être la vérité. Et de Baudelaire, il a appris aussi que de ce réveil, on pouvait recommencer tout. À partir de la réalité telle qu'elle est, on pouvait retrouver le fantastique réel de la vie, comme dit Baudelaire. La modernité, le fugitif. À partir de là, on va recomposer l'idéal et non pas se séparer, abandonner l'existence pour vivre dans les nuées. Mallarmé dit de Villiers le même sur l'asphalte et dans sa nuée, mais on voit plusieurs fois Villiers refuser ce terme, les poètes dans les nuages, etc. Ça l'énerve prodigieusement. Quand ce sont les bourgeois qui disent ça, ils refusent ce mot, sous-entendu. Je ne suis pas dans les nuages, je suis moi dans la réalité, c'est vous qui vous trompez, sauf que c'est ce que vous croyez la réalité, c'est ça qui est une illusion. Et il y a bien chez Villiers une sommation au monde qui l'égale, sa hantise à de riches postulats chiffrés, comme dirait Mallarmé, c'est-à-dire que c'est le monde qui doit égaler ce rêve qui revient à vouloir changer la vie, exactement comme Rimbaud. Sauf que, dans son échec, Rimbaud va dire adieu à la poésie, au nom de la vie, des splendides villes, de l'entrée aux splendides villes. Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, me voilà rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre. Et il semblerait, donc, dit Mallarmé, Rimbaud s'est opéré vivant, de la poésie, au nom, semble-t-il, de la vie, il semblerait que chez Villiers, ce soit le contraire, que dans son dépit, dans la même constatation, il se soit opéré poétiquement de la vie. Ce que je voulais dire, c'est que Villiers a donc voulu écrire pour l'humanité entière, comme il le dit dans La Révolte, et que s'il a échoué, ce n'est pas de sa faute. Je lisais tout à l'heure le texte de La Révolte, là, la foule, car on doit écrire pour le monde entier, quand il va publier plus tard le secret de l'ancienne musique, un des contes cruels, qui était joué par un acteur qui s'appelait Coquelin Cadet, qui le transformait allègrement les œuvres qu'on lui donnait, et qui les publiait quasiment sous son nom, quand même pas, mais en tout cas qui les transformait, qui gagnait en plus de l'argent avec, mais qui n'en faisait pas gagner à l'auteur. Villiers va écrire à l'éditeur furieux, le titre en plus, Le secret de l'ancienne musique était devenu Le chapeau chinois, plus attractif. Alors il écrit, je vous dirais que travaillant depuis 22 ans, pour l'exclusif amour de cette absurdité qu'on appelle l'art littéraire, il ne me convient pas d'abord qu'on se permette de demander des conseils à des gens de métier pour contrôler ou modifier ce que j'écris, même quand il me plaît d'écrire des babioles. Et ensuite, que je ne commencerai pas aujourd'hui ni demain à souffrir que l'on imprime sous mon nom des choses dont je ne puis pas accepter la responsabilité. Bref, on ne me parle pas sur ce ton-là. Je refuse mon bon à tirer. Le secret de l'ancienne musique me sera renvoyé chez moi ou ne paraîtra pas. Je n'ai pas demandé à ce qu'on le prenne, je n'écris pas des dictées, je n'accepte les conseils de personne, tant pis pour moi, soit, mais c'est ainsi. Ce que je fais est définitif et on doit le lire comme je l'écris. Il me semble que j'ai subi assez d'infamie pour ne pas avoir droit encore à celle d'être corrigé par le premier venu. Je n'aime pas le succès et je n'en veux sous aucun prétexte. S'il faut l'acheter à ce prix, d'écrire ou de signer des farces de foire qui sont ou peuvent être seulement bouffonnes. Voilà. Donc, il est passé de l'idée de sa jeunesse d'être Victor Hugo, de l'idée d'écrire pour tout le monde, à l'idée que je n'aime pas le succès et je n'en veux sous aucun prétexte. Ça lui a assez réussi pour l'instant. C'était donc cette suite d'échecs qu'il va subir avec la révolte, donc qui va être joué 5 fois et retiré de l'affiche. Morgane, qui va devenir le prétendant, qu'il va essayer de monter vainement plusieurs fois, et qui réussira enfin à monter en 1965, grâce à M. Castex, donc plus de 100 ans après, ou Le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'était une pièce qu'il avait écrite pour un concours en 1876 pour le centenaire de la libération des États-Unis. Et il avait écrit plein de contraintes. Il avait fini par gagner le concours grâce à Victor Hugo. Et malgré cela, il va attendre 7 ans, alors que tout était organisé pour que la pièce soit montée. Il va attendre 7 ans avant de pouvoir la monter. Elle sera montée 19 fois en février 1883. Mais c'était tellement nul, la mise en scène était tellement nulle, les acteurs tellement nuls, que Villiers lui-même était dans la salle à siffler la pièce. Donc après cela, il décidera que plus jamais on ne mettra ces pièces en scène, et quand il réécrira Axel, ce qu'il aurait voulu être son chef-d'œuvre, eh bien il décidera qu'il ne faut pas la monter. En fait, il fera quand même faire une partition, c'est donc qu'il voulait bien la monter, toujours parce qu'il croyait que la parole avait besoin d'être proférée pour exister. Mais elle sera récitée seulement en 1894, donc encore une fois après sa mort. Je voulais citer aussi un conte qui s'appelle Maître Pied, très tardif. Et c'est un peu comme dans Deux Augures, où il va voir le directeur et lui dit « Je suis nul, publiez-moi ». Et il va voir un notaire et il lui propose aussi une œuvre médiocre. Et l'ex-notaire, qui est en plus un personnage très bizarre, qui a commis un forfait pour pouvoir être mis en prison et se présenter aux élections, lui dit « Mais non, on sent dans cette œuvre le goût du rare, du beau pur, ça vaut moins que son titre idiot, ça ne marchera pas, je vais vous dire, si vous continuez à écrire comme ça, je vais vous dire ce qui va vous arriver. » Il lui fait un programme comme ça, « Dilution forcée de vous-même dans de menus productions obligatoires, impossibilité de réaliser l'œuvre vraie et puissante. » Donc les menus productions obligatoires, on va voir, c'est ces petits contes dont je vais vous lire un exemplaire. L'œuvre vraie et puissante, ce sera Axel qui va publier en pré-original, mais qu'il va refaire et qui ne sera finalement publié que par Huysmans en 1890, et qui ne sera sûrement pas à la hauteur, bien sûr, du rêve de Villiers, qui sera l'œuvre vraie et puissante. C'est comme le livre de Mallarmé, bien sûr, ça n'existe pas. Alors il continue à lui raconter son destin, un grabat d'hôpital, sépulture par souscription, statue dans un square, etc. Ce qui est exactement le destin de Villiers de l'Isle-Adam. Donc, à la fin de sa vie, il avait un sentiment d'échec. L'histoire que je voulais vous lire en récréation, elle s'appelle « Le navigateur sauvage ». Elle est un exemple de menu production obligatoire qui est publié en feuilleton dans les journaux. On va voir qu'en réalité, on retrouve une bonne part de ces certitude quant à la, au jugement des foules. Au sud-est de la Terre de Feu, on a relevé ces temps derniers, en plein océan, la présence d'une île très éloignée de toute autre et qui, jusqu'à nos jours, avait échappé aux lunettes cependant exercées des navigateurs. En cette île, depuis des siècles, florissait une race de nègres volontairement médiocres et qui, pour sauvegarder à tout jamais ce précieux don de la nature, avait adopté cette loi fondamentale qu'un de leurs plus sages monarques avait jadis édictée, de serrer dès la naissance entre des haies le crâne de leurs enfants afin de les empêcher de pouvoir jamais songer à des choses trop élevées. L'opération leur était devenue aussi familière que l'est pour nous celle de couper le sifflet. Et, stérilisant quelques rudimentaires notions de lecture purement phonétique et d'écriture presque indistincte, une douce animalité progressait en leur exemplaire peuplade. Par quel mystérieux décret du sort, Tomolo Keke, le noir orphelin, l'exception confirmant la règle, avait-il été dédaigné de la loi commune jusqu'à posséder un crâne indignement naturel ? On ne sait. Toujours est-il que, parvenu à l'âge viril, et à force de s'isoler de ses semblables en promenade taciturne sous les baobabs, il avait fini par se persuader, à tort ou à raison, de cette idée originale que la Terre ne devait pas finir à son île. Fortement travaillé par cette conception bizarre, voici qu'une circonstance fortuite, comme il en arrive toujours à ces sortes de gens, vint servir ses ambitieux projets. Au centre d'une crique sauvage, un singulier remous ayant attiré son attention, l'inventif insulaire trouva le moyen d'en explorer les profondeurs et découvrit bientôt que ce remous provenait tout bonnement de deux éperdus courants sous-marins dont l'un des foyers d'ellipse, leur point de rencontre, était cette crique même. Une grosse branche, toute ronde, jetée dans le courant qui s'enfuyait, disparut comme l'éclair pour un inconnu voyage. 3 jours après, Tomolo Keke, qui en épiait avec anxiété le retour par l'autre courant, fut assez heureux pour le constater et la recueillir. Elle n'était pas sensiblement endommagée. Le courant longeant les sinuosités des écueils l'avait gouverné mieux qu'un pilote, et ce fut avec une grande joie que l'observateur constata, sur l'un des bouts, la présence incrustée de sédiments terreux dont elle était dénuée au départ. Ouh, ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. En moins d'un semestre, une épaisse pirogue aux extrémités coniques, en cœur de manglier, pouvant se clore hermétiquement grâce à un enduit graisseux qui, sitôt fermé, en imperméabilisait les rentrants, fut construite dans le silence de cette hutte solitaire par l'étonnant Keke. Ses expériences réitérées lui apprirent bientôt qu'à égalité de force inverse dans les courants, sa grosse branche mettait environ 36 heures à toucher l'autre foyer de l'ellipse, et par des calculs hyper géniaux, ces sauvages n'en font jamais d'autres, il avait trouvé le poids exact de lest qu'il fallait à sa pirogue, celle-ci étant remplie de sa personne et de 2 secondes de son poids, pour se maintenir sans monter ni enfoncer dans la ligne sous-marine du courant. Tomolo Keke, donc, grâce à l'éloquence des hommes à idées fixes, persuada bientôt 2 des crânes les moins triangulaires de ses compatriotes de l'accompagner en son voyage de découverte. Ceux-ci, transportés par sa faconde, acceptèrent non sans une danse d'enthousiasme. Étant donné l'insensibilisant breuvage aussi connu de certaines tribus indigènes qu'il l'est par exemple des yogis de l'Inde, breuvage grâce auquel, selon la dose, on peut demeurer en léthargie sans manger ni respirer durant le temps que l'on veut, les 3 aventuriers en absorberaient chacun pour 35 heures. Le premier réveillé couperait d'un coup de tomahawk la tresse qui, nouée à l'intérieur de la pirogue, retiendrait le lest. Il enfoncerait le bouchon en feuilles de caoutchouc dans l'ouverture et l'on remonterait en 3 secondes à la surface de la mer, où le couvercle étant soulevé d'une énergique poussée, l'on respirerait d'abord et l'on découvrirait ensuite la terre nouvelle. Cela fait, et après un séjour plus ou moins prolongé chez les sympathiques peuplades de ces parages, les 3 nautonniers, à l'aide de la 2e dose emportée à leur ceinture, réintégreraient la pirogue, la réimmergeraient en plein courant de retour, et une fois revenus en leur île natale, raconteraient les choses dans une assemblée solennelle présidée par le roi. Comme on le voit, c'était excessivement simple. Un beau matin, donc, les noirs aventuriers ayant ingurgité le nécessaire, s'étendirent dans leur embarcation, et dès les premiers symptômes léthargiques, ayant rabattu le couvercle, se laissèrent, d'une commune secousse, rouler dans le courant qui les emporta comme une flèche. 35 heures après, sur les 7h30 du soir, Tomolo Keke s'étant réveillé le premier, grâce à sa nature nerveuse, trancha l'amarre du lest, et en quelques secondes, l'insubmersible pirogue s'épanouissait à découvert sur les flots, au lever de constellations ignorées de ce trio d'explorateurs. Tout un rivage étrange, et autour d'eux d'énormes monstruosités qui se balançaient sur la mer, et mille et une merveilles inconcevables apparurent soudain aux yeux agrandis par la stupeur des trois naturels et en immobilisèrent les fronts couronnés de hautes plumes versicolores. Ce qu'ils entrevoyaient, aucune parole ne pourrait le traduire. Toutefois, avec le calme qui sied au chef d'expédition mémorable, Tomolo Keke leur ayant bien indiqué le point présumable, certain même à son estime du courant de retour, et laissant la pirogue cachée entre deux rocs au-dessus de ce courant, à la garde de ses deux seconds, s'aventura seul et intrépide au milieu des enchantements du rivage. Tomolo Keke venait de découvrir la Canebière. Comme rêvant déjà de la coloniser, il en prenait naturellement possession, avec une mimique sacramentelle au nom du roi de son île, une demi-douzaine de matelots s'échappant avec des hurlements sauvages d'un cabaret d'alentour, sous les ombrages duquel ils venaient de prendre leur repas du soir en fêtant la dive bouteille, l'aperçurent et, le prenant pour le diable, se ruèrent sur lui. L'infortuné navigateur ayant voulu se défendre, fut assommé sur place par ces superstitieux maturins, sous les regards perçants et terrifiés de ces deux séides. Ceux-ci, en promenant autour d'eux des prunelles effarées, remarquèrent sur le sable auprès d'eux un long et vieux cordage abandonné. S'en saisir, il y ait un morceau de roche, d'un tiers moins gros que celui du précédent lest, fut pour eux l'affaire d'une demi-minute. Ayant transporté la pirogue sur le bord avancé des rocs, au-dessus du courant sauveur indiqué par le défunt, ils avalèrent à la hâte l'autre moitié de leur fameux topic, se coulèrent dans la pirogue, rabattirent sur eux le couvercle hermétique, et d'un vigoureux balancement intérieur, s'envoyèrent en plongeant dans la mer, entraînant la corde et son lest central. Le roi décréta la peine de mort contre tout père de famille qui oublierait, à l'avenir, de conifier le crâne de ses enfants. En sorte que, quand il y a déjà plusieurs années, le capitaine Coup de Vent des Bois, ayant découvert cette île, s'aventura, suivi d'une forte escorte, au milieu de cette peuplade polie en sa médiocrité sagace, il aperçut en la capitale de cette île, au centre même de la grande place des huttes, une sorte de monument grossier, construit en bois et en pierre et bariolé d'une inscription. Lorsque l'interprète put enfin se faire comprendre, l'état-major et même les marins de l'équipage, auxquels fut contée l'histoire, tombèrent durant quelques instants dans un étonnement rêveur, en apprenant que l'inscription signifiait « À la mémoire de Tomolo Keke, massacré par les sauvages ». Si c'est ça une menue production obligatoire, c'est-à-dire alimentaire, car Villiers vivait dans la misère, il était obligé de produire, n'avait que son écriture pour vivre, et donc il publiait comme ça des feuilletons, des petites histoires qu'il semble juger secondaires, mais si on la regarde de près, elle est exactement la copie du tueur de cygnes que vous connaissez peut-être. C'est toujours l'histoire du génie écrasé par la foule, interdit de séjour pour avoir oublié de se faire conifier le crâne comme tout le monde. Voilà. Il serait donc peut-être temps de vous dire que Villiers a vécu au 19e siècle et de reprendre un peu maintenant chronologiquement ce que j'ai tenté de dire pour l'instant, en introduction, de son œuvre. Villiers est né en 1838 à Saint-Brieuc, d'une famille qui remonte au Moyen-Âge, dont il croit avoir des héros qui figurent dans les livres d'histoire. On ne sait pas vraiment si la filiation est totalement établie jusqu'au XIIe siècle, mais ce qu'on sait, c'est que Villiers le croyait et que lui-même s'est attaché à des travaux historiques et de généalogie. Et donc, il savait qu'il portait en lui le reflet des richesses stériles d'un grand nombre de rois oubliés. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est exactement la même chose. De cette race de Celtes dont il se réclame, et qui reviendra ici ou là dans son œuvre, il laissera un peu tomber, puisqu'il va venir à Paris assez tôt. Il va bien sûr écrire des poèmes à 19 ans, comme tout le monde. Il va avoir plus de chance, puisqu'il va pouvoir les publier, parce qu'à ce moment-là, il vit aux frais d'une tante qui a encore de l'argent. Il va croire qu'il sera Victor Hugo, donc il va dire, quand Victor Hugo dormira dans son sphère de gloire, moi je serai assis sur le trône de la pensée où il trône aujourd'hui. Il va ensuite publier un roman philosophique qui s'appelle Isis, que j'ai évoqué au début à propos de Tullia Fabriana, qui est plein de fatras philosophiques, comme il dira plus tard dans Claire Lenoir. On voit des notes incroyables à propos de Hegel, à propos de livres scientifiques. C'est un roman et c'est bourré de notes et de digressions philosophiques, c'est-à-dire que ça doit être très ennuyeux pour les gens qui aiment le style coulant des histoires qui se déroulent. Vers 1860, il va rencontrer Baudelaire, qui sera le bouleversement absolu de sa vie, que j'ai dit, de sa littérature, puisqu'il va lui apprendre à la fois le rêve et à la fois le réveil du rêve, l'action. Surtout, Baudelaire va l'initier, lui faire rencontrer les deux autres personnages fondamentaux de son histoire, c'est-à-dire Edgar Poe, dont il a déjà traduit les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires en 1856 et 57, mais Villiers va les lire tardivement à ce moment-là, et il va décider d'écrire selon l'esthétique d'Edgar Poe. Et son premier livre, écrit selon cette esthétique, ce sera son premier conte, Claire Lenoir, qui a d'Edgar Poe à la fois l'atmosphère nocturne, à la fois la cruauté d'un mécanique implacable, du ton descriptif de laboratoire, comme Baudelaire disait d'Edgar Poe, qui la rupture avec le romantisme de ses pièces Hélène ou Morgane, l'adoption du ton scientifique dans la description qui rend la cruauté infinie. En même temps, la philosophie, puisque Edgar Poe aussi adorait les digressions philosophiques, il adorait briser la fascination, la séduction de ses histoires par des digressions philosophiques, pour qu'on ne se laisse pas prendre au style coulant, surtout pas. Donc, et qu'on sache qu'il faut penser, hein, faire penser, c'était la devise de Villiers. Il a dirigé une revue qui s'appelle la Revue des Lettres et des Arts, et c'était la devise, faire penser. Et surtout, dans Claire Lenoir, il va inventer, pour recréer une distance supplémentaire avec ce qu'il dit, un personnage épouvantable qui s'appelle Tribula Bonhomé, qui est à la fois, comme on dit, Monsieur Prudhomme et Monsieur Homé, mais qui est en fait plutôt ubuesque totalement, qui est totalement idiot, totalement féroce, et qui est en fait tout le monde. C'est-à-dire aussi Villiers de l'Isle-Adam, Tribula Bonhomé, c'est moi, hein, sous-entendu aussi. Hein, la profession de foi de Tribula Bonhomé, qui paraîtra bien, bien plus tard, c'est que celui qui me trouvera exagéré sache bien que moi, Bonhomé, je ne suis autre que lui-même. Je ne rougis que d'une chose, c'est de me voir si banal, si profondément banal, etc. À la fin, il dit « Je suis inévitable, je suis inoubliable, interminable, chacun apporte sa pierre à mon édifice. » Donc, Villiers admet que tout homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition, comme disait Montaigne, tout homme porte aussi en soi Tribula Bonhomé. Naturellement, c'est un savant, un docteur. Et je vais vous montrer comment il soigne. Ça vous donnera peut-être une recette, si vous fumez comme moi, comment soigner le tabagisme. C'est une histoire à trois personnages. Tribula Bonhomé, qui est donc le bourgeois positiviste, et un couple, Césaire et Claire Lenoir, dont l'un est hegélien et occultiste, et dont la femme, elle, est chrétienne et connaît tout du pardon divin, mais a fauté gravement avec un lieutenant anglais dans sa jeunesse. Et l'histoire de la découverte de cet adultère par le mari c'est la clé de l'histoire fantastique elle-même. Mais le mari va mourir, donc. Dédaigneux des remontrances de sa tendre femme, donc c'est toujours à propos du tabac. Dédaigneux des remontrances de sa tendre femme qui s'était jetée plus d'une fois à ses pieds, le conjurant, au nom des sentiments le plus sacrés, de renoncer à son immonde passion, il ne diminuait même pas les doses de poudre qu'il introduisait et agglomérait à chaque instant dans ses fosses nasales, à la longue saturée de nicotine. Le poison ne tardait pas à pénétrer de là dans tout l'organisme, à le perturber jusqu'au délire, et quelquefois, disons-le tout bas, jusqu'à la folie furieuse. Ce qu'il appelle le délire à la folie furieuse, c'est son hégélianisme. C'est d'avoir lu Hegel, c'est ça, la folie furieuse à ses yeux. Dès les premiers jours, ayant remarqué sa manie, je résolus de le guérir, de le sauver. Et pour diversifier et amuser en lui le démon de l'habitude, j'avais essayé de substituer dans sa boîte d'or du nitrate d'argent, du sucre de réglisse, du chloroborate de mercure, du charbon de terre, du phosphure de calcium, de la raclure de vieux souliers, de la soude caustique, de la poudre à canon et mille autres drogues inoffensives. Bref, j'eus vraiment pour lui les sollicitudes d'une mère. Inutiles efforts, il prisa tout d'un nez indifférent au cartilage blindé. Néanmoins, je ne me tins pas pour battu. Décidé à le guérir par mon système d'homéopathie, le seul sérieux pour qui n'a pas le bon sens oblitéré, je m'enfermais dans le laboratoire de chimie. Là, il va encore inventer de nouvelles drogues. Et au moment où mes soins et mon traitement allaient être couronnés d'une récompense inespérée, car je crois me rappeler qu'il commençait à regarder par moments sa tabatière avec une indéfinissable expression, un certain samedi soir, environ 10 jours après mon arrivée dans la maison, après un dîner des plus enjoués, il pâlit au dessert, tout à coup ses yeux se fermèrent, il remua les lèvres, il était mort. Alors il aura temps quand même de prononcer cette phrase avant de mourir. Comment pardonner à l'adultère? Donc il a un doute terrible par rapport à sa femme. Et comme il croit à l'occultisme, il va finir, grâce à la métempsychose, par se réincarner dans un sauvage d'une île d'Océanie. Et retrouver le lieutenant et se venger, donc posthumement, post-mortem. Et sa femme va avoir la vision terrible de son mari devenu sauvage et portant la tête de son amant. Cette image, parce qu'il faut un ton aussi scientifique, va s'imprimer dans la rétine et Tribula Bonhomet va donc faire une découverte scientifique extraordinaire, c'est que même les visions ont une réalité. Je vous fais la description de ce qu'il découvre dans les yeux de Madame Lenoir, elle-même morte aussi. Alors, ô l'effroi de ma vie, ô vision qui a changé pour moi le monde en sépulcre, qui a installé la folie dans mon âme, en examinant les yeux de la morte, je vis distinctement d'abord se découper comme un cadre le liseré de papier violet qui bordait le haut de la muraille, et dans ce cadre réverbéré de la sorte, j'aperçus un tableau que toute langue morte ou vivante, je n'hésite pas un seul instant à le dire, est sous le soleil et la lune hors d'état d'exprimer. Oh, comment décrire cela? Quelle imagination comblera l'inanité dérisoire des mots que je vais tracer? Le paroxysme de l'ardente inquiétude qui m'agitait faisait trembler l'ophtalmoscope entre mes doigts, et le jet de lumière dansait dans les yeux du cadavre, dans les grands yeux renversés, vitreux, fixes, exorbitant, déployé. Et voici à peu près ce que je voyais. Oui, des cieux, des flots lointains, un grand rocher, la nuit tombante et les étoiles, et debout sur la roche, plus grand que les vivants, un homme, pareil aux insulaires des archipels de la mer dangereuse, se dressait. Était-ce un homme, ce fantôme? Il élevait d'une main vers l'abîme une tête sanglante par les cheveux, avec un hurlement que je n'entendais pas, mais dont je devinais l'horreur, à l'ignivome distension de sa bouche grande ouverte, il semblait l'avouer au souffle de l'ombre et de l'espace. De son autre main pendante, il tenait un coutelas de pierre, dégoûtant et rouge. Autour de lui, l'horizon me paraissait sans bornes, la solitude à jamais maudite, et sous l'expression de furie surnaturelle, sous la contraction de vengeance, de solennelle colère et de haine, je reconnus sur le champ, sur la face de l'otisore vampire, la ressemblance inexprimable du pauvre monsieur Lenoir avant sa mort, et dans la tête tranchée, les traits affreusement assombris de ce jeune homme d'autrefois, de Sir Henry Clifton, le lieutenant perdu. Donc là, vous avez un programme complet de ce que va être son œuvre, du moins au niveau des contes, hein, la condamnation du positivisme, du progrès, le fantastique pour son effet d'atmosphère, et en même temps le débat toujours entre les jolianismes, hein, est-ce que la réalité existe, l'occultisme, et le christianisme, dont il va toute sa vie tenter un mélange complexe et délicat. Ensuite, en 1870, il va écrire La Révolte, que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas raconté non plus, c'est l'histoire d'un couple bourgeois, du théâtre bourgeois. Vous avez un couple ordinaire, préoccupé uniquement d'argent, un homme et une femme, mais à Paris, en 1870, des gens ordinaires qui s'occupent de leurs affaires. Seulement, on découvre tout d'un coup la femme va faire l'aveu à son mari qu'elle s'en va. Comme il va le penser, il finit par lui demander « Mais est-ce que tu aurais un amant, par hasard ?» Eh bien non, pas du tout, elle n'a pas d'amant. Comment voulez-vous faire du théâtre comme ça ? Elle s'en va pour des raisons totalement métaphysiques. Tu dis des folies, je me fâcherai à la fin. Je connais les femmes, je puis pardonner leur vivacité, mais enfin, qu'est-ce que tu veux ? Spécifie-moi une fois pour toutes ce que tu veux. Je veux vivre, entendez-vous, insensé que vous êtes. Vous ne comprenez pas cela, vous, qu'on puisse raisonnablement vouloir vivre. Enfin, j'étouffe ici, moi. Je meurs de mon vivant. J'ai soif de choses sérieuses. Je veux respirer le grand air du ciel. Emporterai-je vos billets de banque dans la tombe ? Combien croyez-vous donc qu'on ait de temps à vivre ? Vivre, est-ce même là ce que je désire, ce que je puis désirer aujourd'hui ? Etc. Elle veut vivre, mais elle sait que c'est déjà trop tard. Alors elle lui explique son rêve. Elle lui dit, mais explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça, rêver ? Alors elle lui dit, eh bien rêver, c'est d'abord oublier la toute-puissance des esprits inférieurs, mille fois plus abjects que la sottise. C'est cesser d'entendre les irrémédiables cris des spoliés éternels. C'est oublier les humiliations que chacun subit et que tous infligent et que vous appelez la vie sociale. C'est oublier ce soi-disant devoir qui révolte la conscience et ne sont autres que l'amour des intérêts bas et immédiats au nom desquels il est permis de demeurer distrait devant la misère des déshérités. C'est contempler, au fond de ses pensées, un monde occulte, dont les réalités extérieures sont à peine le reflet. C'est renforcer l'invisible espoir dans la mort déjà prochaine. Monsieur, c'est se ressaisir dans l'impérissable, c'est se sentir solitaire mais éternel, c'est aimer l'idéal beauté, librement, comme courent les fleuves à la mer. Et le reste des passe-temps ou des devoirs ne vaut plus un soleil pour moi dans ces temps maudits où je suis forcé de vivre. Au fond, rêver, c'est mourir, mais c'est mourir au moins en silence et avec un peu de ciel dans les yeux. Je ne désire plus que cela. Je n'ai plus de caresses, je n'ai plus d'enthousiasme, je n'ai plus d'entrailles. Alors son mari lui dit, mais ça, c'est des mots, bien sûr, et des mots, mais avec quoi veux-tu que je te réponde ? Exactement la même certitude, c'est qu'en effet, il n'y a que cela, des mots, et que vous voyez quand même que son rêve au départ, c'était bien de vivre, contrairement à ce que semble dire Mallarmé, tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Alors elle va s'en aller, on n'en reviendra pas, il va tomber d'inanition. Puis quelques heures vont passer et elle va revenir. Elle a compris que c'était fini, elle ne pouvait plus vivre, elle ne savait plus ce que c'était. Et lui, comme il est très sympathique, c'est un homme très agréable, il va lui dire, eh bien tu as bien fait, tu vois, et dire en deux côtés, c'est égal, je ne suis pas fâché qu'elle soit un peu humiliée. Tu vois, je ne suis pas un méchant. C'est une véritable ordure, c'est tout à fait Tribula Bonhomé. C'est exactement le même personnage que tout à l'heure. Alors, après 70, donc, l'échec de la révolte, après il va partir en Angleterre. Il a donc rêvé de gloire au début, il a même voulu être roi, Villiers-Dillan. Après que le trône de Grèce était vacant, il va se porter candidat pour le trône de Grèce. Il va même faire intervenir, paraît-il, Napoléon III, du moins racontait-il l'histoire comme ça. Là, il va partir en Angleterre, à Londres, parce que un marieur lui a proposé de vendre son nom à une femme riche. Donc, lui, il a un nom, il est comte, il n'a pas un sou, on lui achète des vêtements et tout. Il y a un contrat, le marieur doit toucher une partie de la somme si le contrat se fait. Il va rencontrer une femme, et pendant longtemps, on n'a pas su qui c'était, mais grâce aux enquêtes policière acharné de l'éminent professeur monsieur Pierre-Georges Castex ici présent et à un livre de monsieur Belfroy ici présent aussi et tous les deux auteurs de la Pléiade de Villiers de l'Isle-Adam, ils ont réussi à retrouver cette femme car il y a un exemplaire de la révolte qui est dédicacé à une femme qui s'appelle à Anna R. Sur cette dédicace il y a un trou, on voit qu'un mot a été effacé derrière. Alors M. Castex s'est présenté à la police, à Interpol, je ne sais où, à l'identification judiciaire. Ils ont essayé tous les chlorures de potasse et toute la liste des produits, les rayons, le scanner, le laser, etc. Ils ont fini par faire apparaître le nom disparu, qui était tout simplement Powell, qui a été lu Powells, ou que Villiers avait peut-être écrit Powells, mais que des onomasticiens, des onomastologues, des je ne sais quoi anglais, ont permis de retrouver comme étant Powell, et avec ça, ils ont réussi à retrouver qui était cette femme. Pas si riche que ça, elle était déjà plus ou moins déshéritée, et de toute façon, elle a rejeté Villiers, quoi qu'il arrive, elle est devenue cantatrice, elle a réussi à chanter à Paris le Trovatore de Verdi, une fois, au moins par ses appuis. Elle a été jugée plus ou moins nulle, et quand même quelques-uns ont reconnu qu'elle était belle et qu'elle avait un beau timbre de voix, timbre qui est le mot horrible pour Villiers par excellence, c'est ce que goûte le bourgeois dans la voix, c'est le timbre, je ne sais pas pourquoi il est obsédé par ça, on voit ça dans le Tueur de cygnes, et surtout on va le retrouver plus tard dans l'Ève future, et donc ils en ont conclu qu'en fait cette femme devait être le modèle de Alicia Clary, la femme de Lord Eval dans les futurs, qui est tellement belle qu'elle a emprisonné ce lord anglais d'amour, mais qui est tellement bête en même temps qu'il ne peut plus supporter et qui voudrait qu'on ôte. Il dit qui m'ôtera cette âme de ce corps. Il va se rendre chez Edison à Menlo Park. Edison qui a inventé comment on reproduisait la voix, et puisque la voix pour Villiers c'est la vie, il ne devrait pas avoir de mal à lui fabriquer une femme dans laquelle il n'y aurait pas cette âme insupportable qui accompagne Alicia Clary. Alors en effet, pas de problème, va lui dire Edison, j'ai tout ce qu'il faut, et il va lui fabriquer cette femme pièce par pièce. Et tout le roman c'est la description de la fabrication avec description de chaque pièce de la femme, la carnation, elle a de la chair et tout, elle est totalement réussie. Toutes les pièces sauf une naturellement, puisque on ne sait pas trop si elle a une sexualité ou pas, en tout cas c'est quelque chose qui n'apparaît pas. Et ce qu'on sait aussi c'est que normalement au départ elle n'a pas d'âme, mais elle a été programmée avec des paroles de la littérature, donc à chaque fois, elle va répondre quelque chose d'intelligent. Alors je vais vous lire quelques passages. Le Lord lui dit, mais quand même, comment peut-on improviser dans ce cas-là ? Oui, soit, dit amèrement Lord Eval, cependant, monsieur l'enchanteur, ne pouvoir jamais improviser une parole naturelle, toute simple, cela doit glacer bien vite la bonne volonté la plus résolue. « Improviser ?» s'écria Edison. « Vous croyez donc que l'on improvise quoi que ce soit ? Qu'on ne récite pas toujours ? Mais enfin, lorsque vous priez Dieu, est-ce que tout cela n'est pas réglé, jour par jour, dans ces livres d'oraison qu'enfant vous avez appris par cœur ? En un mot, ne lisez-vous pas ou ne récitez-vous pas toujours les mêmes prières du matin et du soir, lesquels ont été composés une fois pour toutes et pour le mieux par ceux qui ont eu qualité pour cela et qui s'y entendaient. Est-ce que notre Dieu lui-même, enfin, ne vous en a pas donné la formule en vous disant « quand vous prierez comme ceci » Est-ce que depuis bientôt 2000 années, toutes les autres prières sont autre chose que de pâles dilutions de celles qu'il nous a léguées? Mais dans la vie, est-ce que toutes les conversations mondaines n'ont pas l'air de fin de lettre? En vérité, toute parole naît et ne peut être qu'une redite, et il n'est pas besoin de Adali pour se trouver toujours en tête à tête avec un fantôme. Chaque métier humain a son ensemble de phrases, où chaque homme tourne et se vire jusqu'à la mort, et son vocabulaire qui lui semble si étendu se réduit à une centaine au plus de phrases types constamment récitées. Certes, vous n'avez jamais eu le souci, ni pris le plaisir de calculer, par exemple, la somme d'heures qu'un perruquier de 60 ans, ayant commencé son métier à 18 ans, a dépensé à dire à chaque menton qu'il rase « il fait beau » ou « vilain temps » pour engager la conversation, laquelle, s'il lui est répondu, roule 5 minutes sur ce sujet pour être automatiquement reprise par le menton suivant, et ainsi de suite, et recommencer le lendemain. Cela donne un peu plus de 14 années compactes de sa vie, c'est-à-dire la quatrième partie environ de la totalité de ses jours. Le reste est employé à naître, geindre, grandir, boire, manger, dormir et voter d'une manière éclairée. Que voulez-vous qu'on improvise? Hélas, qui n'ait été débité déjà par des milliards de bouches, on tronque, on ajuste, on banalise, on balbutie, voilà tout. Cela vaut-il la peine d'être regretté, d'être dit, d'être écouté? Est-ce que la mort, avec sa poignée de terre, ne clora pas demain tout ce partage insignifiant, tout ce rebattu où nous nous répandons en croyant improviser? Et comment hésiteriez-vous à préférer comme économie de temps les admirables condensations verbales composées par ceux-là qui ont le métier de la parole, l'habitude de la pensée et qui peuvent exprimer à eux seuls les sensations de toute l'humanité? Ces hommes mondes ont analysé les plus subtiles nuances des passions. C'est l'essence que seuls ils ont gardée, qu'ils expriment en condensant des milliers de volumes au profond d'une seule page. C'est nous-mêmes qu'ils sont, quels que nous soyons. Ils sont les incarnations du Dieu proté qui veille en nos cœurs. Toutes nos idées, nos paroles, nos sentiments, pesés au carat, sont étiquetés en leurs esprits avec leurs plus lointaines ramifications. Celles où nous n'osons descendre, nous aventurer. Ils savent d'avance et pour le mieux tout ce que nos passions peuvent nous suggérer d'intense, de magique et d'idéal. Nous ne ferons pas mieux, je vous assure, et je ne vois pas pourquoi nous nous donnerions la peine de parler plus mal en voulant nous en rapporter à notre inhabileté, sous prétexte qu'elle est, du moins, personnelle, alors que ceci, vous le voyez, n'est encore qu'une illusion. Alors, je ne sais pas si vous sentez dans cet humour que le dépit devient tout de même terrible par moments. Et quand il va reprendre un passage qui s'appelle « L'éternel féminin », plus loin, « Lors des vals, au fond duquel brillaient des gouttes de sueur pareilles à des pleurs, regardait le visage glacial maintenant d'Edison. Il sentait que sous ce badinage strident et positif se cachaient deux choses dans l'arrière-pensée une et infinie qui enveloppait cette démonstration. La première, l'amour de l'humanité. La seconde, l'un des plus violents cris d'inespérance, le plus froid, le plus intense, le plus prolongé jusqu'aux cieux peut-être, qui ait jamais été poussé par un vivant. En effet, ce que disaient en réalité ces deux hommes, l'un avec ses calculs littérairement transfigurés, l'autre avec son silence d'adhésion, ne signifiait pas autre chose que les paroles suivantes, adressées inconsciemment au grand X des causes premières. La jeune amie que tu daignas m'envoyer jadis, pendant les premières nuits du monde, me paraît aujourd'hui devenue le simulacre de la sœur promise, et je ne reconnais plus assez ton empreinte en ce qui anime sa forme déserte pour la traiter en compagne. Ah, l'exil s'alourdit. S'il me faut regarder seulement comme un jouet de mes sens d'argile, celle dont le charme consolateur et sacré devait réveiller en mes yeux si las de l'aspect d'un ciel vide, le souvenir de ce que nous avons perdu. À force de siècles et de misère, le permanent mensonge de cette ombre m'ennuie. Rien de plus, et je ne me soucie plus de ramper dans l'instinct d'où elle me tente et m'attire, jusqu'à m'efforcer de croire toujours en vain qu'elle est mon amour. C'est pourquoi, passant d'une heure, et qui ne sait d'où je viens, je suis ici cette nuit dans un sépulcre, essayant, avec un rire qui contient toutes les mélancolies humaines, et m'aidant comme je le peux, de la vieille science défendue, de fixer au moins le mirage, rien que le mirage, hélas, de celle que ta mystérieuse clémence me laissa toujours espérer. Il me semble que dans ces deux passages, vous avez exactement la dédicace de l'œuvre future et peut-être tout l'œuvre de Villiers, c'est-à-dire aux rêveurs, aux railleurs, et qui croire que ce rêve que Mallarmé définissait au début, c'est le but de Villiers, que sa raillerie va s'exercer, ce qui, entre parenthèses, suppose un regard assidu sur tout de sa société, parce que tout y passe, la publicité, les machines, la science, il est informé de tout. Et donc il est bien dans le présent de son monde que cette raillerie ne s'exerce pas seulement à l'égard du monde qu'il faudrait détruire pour faire advenir son rêve. Elle s'exerce en même temps, comme on le voit, à l'égard de ses propres rêves, de ses propres désirs. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre future sinon de construire cette beauté idéale qu'il désirait au début, seulement confier un savant à une mécanique cette construction, c'est déjà se moquer de son art, car Edison, c'est pas seulement un savant, c'est pas un positiviste comme Tribula Bonhomme, c'est un artiste, c'est un écrivain, c'est exactement l'écrivain qui réalise l'idéal de l'écriture dans son château reclos d'écriture, comme exactement Mallarmé le prétendait au début. Or, qu'est-ce que c'est que cette marionnette qui va, entre parenthèses, devenir vivante par un nouveau système, on va finir par lui donner une âme, mais enfin, une âme qui se débranche quand même, puisque on peut... Parce qu'elle a quand même un problème, c'est un problème d'équilibre. Alors, quand ils vont devoir la transporter en bateau des États-Unis en Angleterre, ils vont avoir peur, parce qu'avec le roulis et le tangage, elle est assez bien quand même calculée, mais quand même, ça risque d'être dangereux. Alors, ils préfèrent la déconnecter et la mettre dans une boîte, un cercueil. Et là, c'est quand même pas de chance, il va y avoir un incendie dans la caisse à bagages et Lord Eval va se précipiter dans les bagages et trois personnes vont être obligées de le retenir pour l'empêcher de récupérer sa valise et donc il arrivera sans cette femme. Donc cette beauté idéale, immortelle, qui trône dans l'azur, comme un sphinx incompris, eh bien elle est plus mortelle encore que la femme réelle qui elle, a dû rentrer à Londres tranquillement avec sa vulgarité antérieure et que peut-être... il aurait mieux dû apprendre à la regarder que demander une copie sans âme pour la remplacer. C'est donc en même temps ce qui est la leçon de Baudelaire perpétuellement, c'est que cette beauté idéale, ce n'est qu'un masque, un décor suborneur, un visage fardé d'une exquise grimace, et derrière il y a la véritable tête et la sincère face. Celle qui pleure, et pourquoi elle pleure? Parce qu'elle vit, et parce que demain il faudra vivre encore. C'est bien ce côté de Baudelaire que Mallarmé a voulu rejeter. Hein. Villiers, lui, n'a pas pu le rejeter, c'est pourquoi il a vécu dans des contradictions perpétuelles. Et si Mallarmé dit que son écriture est un silence, il finit bien par dire qu'il a découvert avec Villiers ce que c'était le verbe quand c'est quelqu'un qui le profère. Et donc, ce n'est pas le silence de l'écriture, puisqu'il y a quelqu'un qui parle, et dans l'œuvre de Villiers, on sent bien tout le temps que ce n'est pas des jeux de mots, hein, il y a quelqu'un qui parle, il y a beau avoir des labyrinthes, des métaphores de l'écriture connues, comme dans Borges, mais il y a quelqu'un qui parle, et si vous lisez Borges aussi, qui naturellement a fait une édition de Villiers de l'Isle-Adam avec une préface totalement... pécamineuse dans l'édition française, puisque traduite de l'italien, avec des titres de Villiers de l'Isle-Adam traduits directement de l'italien, Mais il n'empêche qu'il a voulu lui rendre hommage. Et si vous regardez dans Borges aussi, les labyrinthes, les jardins aux sentiers qui bifurquent, vous verrez que ce même cri que pousse Villiers, sur cette désespérance infinie que l'écriture ne soit que de l'artifice, c'est dans Borges aussi. Et à un moment, par exemple, il raconte une métaphore, il reprend à travers l'histoire la métaphore de la sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Il finit par l'attribuer à Giordano Bruno, qui pousse un cri de joie dans cette découverte, puis à Pascal, qui dit « Le monde est une sphère effroyable où le centre est partout et la circonférence nulle part. » Et dit peut-être que l'histoire universelle n'est que l'histoire des diverses intonations de quelques métaphores. Et donc, il ne dit pas « C'est l'histoire des métaphores », non. C'est l'histoire des intonations de quelques métaphores. Donc, croyez qu'il y a quelqu'un qui parle dans ses écrits, et Mallarmé aussi. Après les futurs, ça doit être 1886, Tribu la Bonhomme, 87, et puis de nombreux, d'innombrables contes. Et puis, il va tomber gravement malade. Il avait un cancer des voies digestives. Mallarmé, ses amis vont discrètement faire le mécénat, parce qu'il était dans la misère complète. Et puis, ils vont lui trouver une maison à Nogent. De cette maison, il devra rapidement regagner un hôpital rue Oudinot, à Paris, que François Copé avait trouvé, celui des Frères de Saint-Jean-de-Dieu. Et là, il va devoir, par l'intervention, la grande force de conviction de Viscount-Mens, de Mallarmé et d'un frère de l'hôpital, épouser la femme avec qui il vivait depuis longtemps et dont il avait un fils depuis 1880, et qui s'appelait Marie Dantine, qui était une servante et qui était totalement analphabète, puisque donc au mariage, on était le 14 août 1889. Elle va signer d'une croix en disant « j'ai signé d'une croix comme pour mon premier mari ». Parce qu'elle était veuve. Elle avait un autre fils de ce premier mari. Donc voilà, celui qui avait voulu être roi, il va mourir donc dans la misère, épousant une femme analphabète et laissant un fils qui mourra lui à 20 ans, le seul porteur de son nom. Il se marie le 14 août et il meurt le 18 août. Ensuite, Mallarmé et Viscount-Mens, qui sont ses exécuteurs testamentaires, ont publié un certain nombre de textes, toujours essayant de récupérer de l'argent pour la femme et le fils. Ça sera publié dans Chez les Passants, qui est un recueil un peu disparate. Puis Axel, en 1890, et ils vont abandonner ensuite ce travail à d'autres qu'ils ne feront pas toujours très bien. Jusqu'à ce qu'apparaissent les vrais savants qui, eux, vont publier la fin, c'est-à-dire Relique, Nouvelle Relique, Le Prétendant, 1965, et enfin publier les éditions complètes dans la Pléiade en 1987. Après un demi-siècle, il ne faut pas dire ça, parce que M. Castex est encore jeune, après 40 ans de travail avec M. Reit et M. Belfroy.
Il n'y a que deux
volumes. La prochaine édition, il y en aura trois. On ne sait pas ce qu'ils vont encore trouver. Ah. Nerval est sorti en deux volumes il y a quelques années. Et cette année, il est sorti en trois volumes. Donc, je ne sais pas non plus ce qu'il a écrit depuis Nerval.